Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est Boulevard Against le matin. Pour nous joindre, 418-971-1021, l'application Boulevard 101, twitch.tv/BLVD/FM. On est disponible également sur la web radio. Merci de réagir autant par texto. D'ailleurs, on a une excellente question là, d'un auditeur ou d'une auditrice. Tu pourras te nommer concernant la gestion de l'offre en disant qu'elle veut qu'on pose la question à Sylvain Charlebois, à savoir comment on va compenser les agriculteurs qui ont acheté des quotas. C'est une excellente question. On va la poser à Sylvain Charlebois tout à l'heure, certainement. Alors, vous voyez, vous pouvez interagir avec nous. Ça nous fait plaisir de relayer vos questions. C'est maintenant l'heure d'aller discuter avec une personne qui a eu à prendre de grandes décision vendredi lorsqu'on a annoncé 35 % de tarifs, notamment sur le bois d'œuvre. Je pense à Jean-François Champoux, qui est PDG de la scierie Saint-Michel, établi à Saint-Michel-des-Saints. Fermeture pour une période de 3 mois jusqu'au mois d'octobre en raison de la situation tarifaire. Monsieur Champoux, comment qu'on va malgré là, justement cette mauvaise nouvelle?
Ben, c'est une dure et longue journée là, qu'on a eu à passer vendredi. Là. Notre premier pensée, c'est pour nos employés et les familles touchées. Qu'est-ce qui est important de rappeler, là, c'est que quand tu mets 250 personnes à pied pour une communauté comme Saint-Michel-des-Saints, là, c'est énorme pour une population de 2000 habitants.
Oui, en effet, c'est ce que je voyais, 2809 résidents à Saint-Michel-des-Saints. Est-ce que, justement, ça crée énormément d'instabilité au sein de la communauté, là, à savoir de l'argent qui ne sera pas dépensé, des gens qui vont rester à la maison?
Ben, tu sais, qu'est-ce qui est important de rappeler à vos auditeurs, là, c'est que l'industrie forestière du Québec, là, elle soutient les régions. C'est quand on touche à une usine de transformation du bois d'œuvre, on touche à des villages. Fait que veux, veux pas, c'est sûr que quand il arrive des nouvelles comme ça, c'est majeur comme conséquence. Puis c'est dans ce cas-là, c'est encore plus fâchant parce que c'est évitable.
Oui, c'est ça. Avez-vous l'impression d'avoir été laissé pour compte par autant le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial à l'effet qu'on va protéger certains pans de notre économie, notamment l'agriculture avec la gestion de l'offre, les producteurs laitiers, et que du côté du bois d'œuvre, on vous abandonne complètement dans cette guerre-là?
Bien, tu sais, nous, là, ce qui est important de rappeler aux auditeurs, là, c'est qu'on est la deuxième économie du Québec. Tu sais, oui, souvent, on va entendre les politiciens parler de, surtout au niveau fédéral, là, de l'automobile, de l'aluminium, de l'acier, tu sais, même, j'ai souligné le point à M. Charest, via les médias sociaux l'autre semaine, là, que c'est un des seuls qui parle du bois comme économie avec les autres grands joueurs.
Ouais, vous parlez là de Jean Charest, j'imagine?
Oui, c'est ça. Puis nous, là, quand on regarde les impacts qu'on a dans des communautés partout à travers le Québec, là, pas juste à un endroit, là, c'est partout. Mais oui, on doit être fier de notre foresterie au Québec, on doit être fier de notre foresterie au Canada. Puis un travailleur de l'industrie forestière, là, il est aussi important qu'un travailleur de l'aluminium.
Vous disiez que c'était évitable, la situation actuelle. Comment c'était évitable, selon vous?
Faut faire bien attention là avec les tarifs qui sont mentionnés actuellement. Tu sais, on a les tarifs qui sont des décrets de Trump qui sont signés sur le coin d'une table. Puis nous, c'est un conflit du bois d'œuvre qui perdure depuis 2017. C'est un des plus longs conflits du bois d'œuvre. Nous, là, à quelques points près, on le sait depuis 5-6 mois là, qu'en début d'août, on va avoir une taxe de 35%. Puis là, les montants, les pourcentages se ressemblent, c'est ça qui peut peut-être tromper la population, mais nous, là, c'était de quoi qu'on avait dans le radar, qu'on regardait. Tu sais, actuellement, là, le gouvernement incarné avait une position canadienne commune pour les entreprises de transformation du bois pour faire un offre de règlement au gouvernement américain pour le conflit, et qui incluait des quotas et tout ça. Puis nous là, on était fiers de ça depuis 5-6 semaines d'être que le comité canadien soit parvenu à une entente commune, parce que même le gouvernement Trudeau n'avait jamais eu cette chance-là de pouvoir aller négocier avec une position canadienne commune. Parce qu'avant d'aller négocier avec les Américains, il faut commencer par s'entendre au Canada.
Ouais.
Fait que on avait ça sur la table depuis plus d'un mois. Fait que nous, là, on a eu confiance jusqu'à la dernière minute que le gouvernement incarné parvienne à un règlement du conflit du bois d'œuvre. Puis c'est pour ça que je dis que c'est évitable. Tu sais, on invente pas ce qui est là depuis des mois. Tu sais, depuis septembre 2022, là, l'environnement d'affaires, l'industrie, là, est difficile. On a le projet de loi 97 qui est dans le visée pour la rentrée parlementaire, qui est adressé pour solutionner des positions qui nous rendait non compétitifs face à l'Ontario. Puis on a une position des Premières Nations qui ont revendiqué leur souveraineté territoriale en 2020, qui fait en sorte que la prévisibilité à long terme des scieurs québécois n'est plus là. Fait qu'avec tous ces points-là, nous autres à Saint-Michel-des-Saints, ce qu'on dit, c'est que on aime mieux prendre une pause jusqu'au 13 octobre, donner le temps au gouvernement de régler ses points, puis quand on va revenir au jeu, au moins on va avoir un environnement d'affaires favorable pour que nos travailleurs soient... arrête d'être inquiète de « ils vont-tu perdre leur job à tous les 15 jours?
» On parle avec Jean-François Champoux, qui est PDG de la Scierie Saint-Michel, qui a annoncé justement sa fermeture jusqu'au 13 octobre pour une période de 3 mois. C'est plus de 300 emplois qui sont perdus dans la petite communauté de Saint-Michel-des-Saints. Monsieur Champoux, qu'est-ce qui a chopé en bout de ligne? Vous dites « hey, on avait confiance jusqu'à la dernière minute, on croyait que Mark Carney et son gouvernement seraient capables de négocier justement une entente par rapport au bois d'œuvre avec les États-Unis, parce qu'on s'était entendu l'ensemble des transformateurs canadiens et ça n'a pas fonctionné. Comment on vous explique le fait que ça n'ait pas fonctionné dans les négociations avec les États-Unis?
Honnêtement, là, c'est un conflit et un débat qui va rapidement. Tu sais, à matin, le 4, il nous manque de l'information là, sur ce qui s'est passé la semaine passée dans les négociations. On va avoir des suivis dans les prochains jours là, qui vont nous en dire plus clair, mais nous, tu sais, moi, j'ai l'obligation de gérer mon entreprise avec des règles du jeu qui sont claires. Si les règles du jeu sont pas claires, je peux pas avancer. Puis là, actuellement, la première règle du jeu qui doit être éclaircie, c'est la taxe américaine. Puis on a pas le temps d'attendre qu'ils solutionnent l'aluminium, qu'ils solutionnent l'acier. Le bois d'œuvre, là, il est important pour les Québécois, il est important pour les Canadiens. Faut que ça soit adressé, puis faut que ça soit réglé. On a la chance d'avoir une position commune. Réglons avec les États-Unis.
Diriez-vous que vous êtes dans une position plus vulnérable que les industries de l'aluminium et de l'acier?
Je peux pas commenter pour les autres industries, mais ils ont besoin de broyer pas mal moins fort que nous autres pour être écoutés.
Ouais. Vous dites que ce conflit-là, là, il dure depuis 2017. Les tarifs de Donald Trump, c'est on le sait, là, que ça nous pend au-dessus de la tête depuis quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'élection de Donald Trump et à quel point l'élection de Donald Trump et ses tarifs viennent s'interposer dans cette problématique-là?
Bien, actuellement, là, tu sais, des changements de pourcentage de droits compensatoires, on en a vécu là, 5 ou 6 là, depuis le début du conflit. À chacune des occasions, la politique américaine t'a quand même pas si mal que ça pour faire en sorte là, que la confiance des acheteurs américains est à bonne. Mm. Actuellement, la politique de Trump, qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est qu'il crée une énorme incertitude autant de notre côté de la frontière que de la leur.
Ouais.
Fait que les clients américains, là, quand vous regardez le niveau de confiance des acheteurs américains, mais elle n'est pas là.
Ouais.
Fait que quand on dit qu'on peut monter à 34,45-35% de taxes. Tu sais, nous, on vend du bois là, dans les alentours de 600 $ du 1000 pieds. Puis une taxe comme ça, c'est tout près de 130 $ du 1000 pieds. Fait qu'on peut pas dire que demain matin, nos clients américains vont prendre la taxe parce qu'eux-mêmes n'ont pas la confiance sur le marché actuellement.
Ouais.
Fait que tu sais, c'est beaucoup une question d'offre puis de demande puis de confiance de nos acheteurs américains. Puis tu sais, là, souvent le monde va dire là, ouais, mais diversifiez-vous, puis allez en Europe, puis ça, mais. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que les États-Unis importent beaucoup de bois de l'Europe, déjà. Fait qu'à chaque fois qu'on enlève un produit québécois ou canadien de sur le marché américain, dites-vous que c'est un Européen qui prend place. Fait que c'est pas. C'est un marché ciblé qui est là sur la plus grande population de l'Amérique. Puis nous, qu'est-ce qu'on travaille actuellement, là, puis plusieurs transformateurs de bois font ça, c'est qu'on travaille sur les sous-produits du bois pour emmener de la deuxième puis de la troisième transformation comme de la granule de bois pour l'Italie, pour s'emmener d'autres marchés pour se diversifier. Mais si on veut que l'industrie canadienne du bois se modernise, change, faut y donner le temps.
On dit là que les Américains sont aussi producteurs de bois d'œuvre, mais qu'on n'a pas la même qualité de bois d'œuvre et que nous, notre bois serait plus dense ou de meilleure qualité alors qu'il serait irremplaçable. Est-ce qu'on ne peut pas miser là-dessus sur le fait que notre bois est différent de celui des États-Unis ou c'est tout de la foutaise, ça, là?
On mise déjà là-dessus. C'est pour ça qu'on est un des grands exportateurs de bois aux États-Unis. Ouais. Quand on prend le bois américain, là, souvent on va retrouver ce bois-là là, sur les planchers de bois traité, là, sur les balcons ou quoi que ce soit. C'est ça qu'ils font comme produit avec ces bois-là.
Ouais.
Le bois ne peut pas aller dans le cadre du bâtiment canadien. Le bois ne peut pas aller dans des structures de charpente. Ça prend du bois canadien ou du bois européen parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux produits. Mais C'est pas vrai qu'ils n'ont pas besoin de nous autres. Puis, si elle a souhaité, là, ben, augmenter la production pour plus avoir besoin du Canada. Là. Mais quand le bois se vendait à 1 800 $ du mille pendant la COVID, là, c'est certain qu'elle a augmenté la cadence.
Oui.
Et là, ils ne l'ont pas fait. Vous êtes désavantagé par rapport au marché européen parce qu'avec l'Union européenne, c'est 15 % de tarification. Là, c'est 35 % ici au Canada. Donc, quand vous dites « quand moi, je perds une place aux États-Unis, c'est l'Europe qui le remplace », cette guerre tarifaire-là amène l'Europe à avoir un avantage marqué sur vous à l'heure actuelle.
C'est pire que ça parce que le dossier du bois d'œuvre européen est exclu de la fameuse taxe que vous parlez.
OK.
Fait que nous, depuis des
Donc, années, on est à 0 % au niveau de l'Europe.
C'est tout près de 0 % qu'il y a actuellement. Fait qu'eux rentrent. On n'est pas capable de compétitionner un continent externe. Fait que ça peut vous donner un peu l'ampleur de l'enjeu.
Oui, mais il y a des frais de transport. Le bois d'Europe, même s'il n'est pas taxé, envoyer ça par grand navire, j'imagine que ça augmente le prix pour les Américains.
Bien, ça augmente le prix pour les Américains, mais c'est parce que pendant qu'un Européen paye un bateau, moi, je paye des taxes.
Ah.
Oui, fait que comme ça, il est encore plus avantagé avec son bateau qu'avec les taxes, c'est ce que je comprends.
Exactement.
Autre chose au niveau ici même, sur le territoire canadien, vous mentionnez avoir des problématiques avec les Premières Nations en ce qui a trait au développement de la forêt, à l'exploitation de la forêt. Et là, il y a un projet de loi 97 qui a été justement créé par Maë Blanchette-Vézina, la ministre au niveau de la CAQ. Comment vous voyez ce projet de loi-là? Pour vous, ça serait positif et ça vous permettrait justement de faire davantage de business?
Bien, nous, là, on a travaillé là, à chacune des fois que le gouvernement québécois nous a demandé des points ou des suivis sur la modernisation de la loi, on a répondu présent parce qu'on trouvait ça important. La forêt québécoise, depuis les 20 dernières années, elle a changé. Elle a changé en majorité par son utilisation. On a des ZEC, on a des pourvoiries, on a des vigiateurs. Tu sais, Laurentides, de la Naudière, Mauricie, c'est près de 10 000 vigiateurs qui ont des chalets sur le territoire, ce qui n'était pas là avant. Les premiers peuples sont là. Depuis 2020, ils ont déclaré leur souveraineté territoriale au gouvernement du Québec.
Fait que ça vous cause des problèmes sur le territoire que vous pouvez exploiter, c'est ce que je comprends.
Exactement. C'est parce que là, la loi 97, elle vient clarifier tout ce qui peut se passer sur le territoire québécois. On a l'obligation de réussir le dossier de la loi 97 autour de la rentrée parlementaire parce que ce dossier, cette efficacité-là qu'on va trouver avec la loi 97, ça va nous ramener compétitifs face à l'Ontario. Puis il ne faut pas oublier de quoi, là. Puis la plus grande critique que je pourrais faire au gouvernement québécois sur ce dossier-là, c'est que c'était mal vendu. La volonté de la ministre dans ce projet de loi-là est bonne, mais la vente du projet de loi était difficile.
Oui, en effet, parce qu'il y a eu des tollés là, qui se sont manifestés très rapidement. Là, j'ai assisté notamment là, à une conférence de presse là, des principaux acteurs qui étaient contre le projet de loi, notamment les ZEC. Et ça fait énormément de bruit là, dans les médias.
Oui, mais tu sais, le premier point qui est adressé avec la loi 97, tout le monde parle là, qu'ils veulent donner 30 % du territoire à l'industrie forestière. C'est pas ça le premier objectif du projet de loi. L'objectif du projet de loi, là, c'est de protéger 30 % du territoire comme qui est engagé par le gouvernement dans les grands enjeux internationaux. Puis pour arriver à protéger en priorité 30 % du territoire, mais il faut encadrer ce qui se passe dans le multi-usage, c'est dans la collaboration entre les vigiateurs, l'industrie, les Premières Nations, les ZEC. Puis il faut aussi protéger les investissements de l'État québécois, parce que quand l'État québécois investit 200 ou 300 millions par année en travaux sylvicoles, puis elle ne peut pas avoir la certitude qu'elle va pouvoir aller récolter dans 35-40 ans parce qu'il pourrait avoir un tiers ou quoi que ce soit qui est dedans, puis c'est inatteignable. Mais c'est juste c'est la même chose qu'un principe de zonage là, dans les communautés comme l'industriel, le résidentiel, tout ça, c'est le même principe. Mais le premier but, là, c'est qu'il faut que le monde arrête de dire qu'ils ont fait ça pour nous donner 30 % du territoire. Ils l'ont fait pour protéger 30 % du territoire. Puis aujourd'hui, là, on se ramasse avec un projet de loi qui va arriver à rentrer parlementaire. Puis moi, je dis qu'il faut faire très attention. C'est à chacune des fois qu'on ferme une industrie comme la Syrie Saint-Michel et Saint-Michel-des-Saints, on risque de fermer des villages. Puis l'économie forestière du Québec là, est favorable pour les régions du Québec. pas pour les centres urbains, là. On n'est pas dans les mêmes réalités, pas en toutes les centres urbains. Mais c'est important pour nos communautés d'avoir une industrie forestière forte. Puis quand l'industrie forestière est en santé, mais les villages du Québec sont en santé.
Est-ce que, bon, pour une fois qu'il y a une loi qui est proposée par le gouvernement qui est en accord avec l'industrie, est-ce que vous avez bon espoir qu'on aille de l'avant avec cette loi? Puis est-ce qu'elle est suffisante pour protéger l'industrie du bois, selon vous?
Je pense qu'elle peut atteindre plusieurs enjeux. On travaille actuellement à des discussions avec plusieurs tiers là, qui étaient en opposition à la loi pour expliquer les points qu'il y a là-dedans. Parce que, tu sais, à partir du temps que c'est pas expliqué par le gouvernement, mais on essaie de voir avec eux c'est quoi que... Tu sais, parce que chacun a sa vision, puis c'est normal. Là. On respecte ça. Puis on souhaite... là. Moi, je pense qu'on est capable d'y arriver en rentrée parlementaire un projet de loi adopté. Faut laisser les émotions de côté parce que les Québécois, quand on parle de notre forêt, là, on est beaucoup émotifs. Là. Mm-hmm. Autant les végétateurs que les industriels ou quoi que ce soit. C'est un des plus grands agents de développement économique du Québec, le bois. Nos régions ont été développées à cause de la foresterie. On est capable de maintenir notre poste de leader de l'industrie forestière de l'Est du Canada. Mais faut absolument que tout le monde prenne un time-out puis qu'ils prennent le temps de regarder le projet de loi tous ensemble puis qu'on réussisse, là. On n'a pas les moyens que ce projet de loi-là dépasse le mois de décembre, parce qu'on le sait, tout le monde, on s'en va en élection l'année prochaine.
Ouais.
Fait que si ce projet de loi-là dépasse octobre-novembre, puis qu'il n'est pas adopté, mais moi, je lève une mise en garde, parce que je pense pas qu'il y ait personne qui va toucher en 2026 un projet de loi avec des élections.
Jean-François Champeau est PDG de la scierie Saint-Michel, qui est établie à Saint-Michel-des-Saints, une communauté de 2800 âmes qui, malheureusement, voit sa scierie fermée temporairement jusqu'au 13 octobre. Monsieur Champeau, on vous souhaite bon courage dans cette épreuve. On souhaite justement que votre présence dans les médias fasse bouger les choses ici au Québec et au Canada pour que vous puissiez là, réouvrir l'usine rapidement et permettre à vos plus de 300 employés là, de regagner leur poste au sein de votre série. Merci pour votre temps ce matin.
Merci, bonne journée.
Merci à vous, au revoir. Alors, c'était Jean-François Champeau, PDG de la série Saint-Michel. Ça vient, Jacinthe, vraiment... clarifier certaines choses. J'ai l'impression des fois qu'on est les moutons noirs de dire sur les ondes radiophoniques « Hey, il y a des privilégiés puis il y en a qui sont pas du tout privilégiés et abandonnés par nos paliers de gouvernement. » Le bois d'œuvre a été abandonné là, dans la dernière semaine.
Je dirais les régions ont été abandonnées.
T'as raison, c'est un bon point, je trouve.
On le dit souvent, la CAQ, c'est un parti montréalais, tout comme les autres partis politiques aussi. Là, on a tous des partis montréalais. C'est des partis très urbains, avec des personnes influentes au sein du parti politique qui habitent toutes en zone urbaine et qui ne comprennent rien à l'économie des régions et qui n'ont aucune sensibilité à l'égard des régions. Et je suis contente que M. Champeau l'ait mentionné. Là.
Vraiment.
L'industrie forestière, c'est une industrie qui fait vivre les régions, qui amène la vitalité.
Qui fait vivre les petits villages, comme il a dit, puis il a tellement raison.
Oui, et c'est essentiel qu'on accorde plus d'importance. Ils sont moins nombreux, donc nécessairement leur voix est moins forte. Mais je trouve qu'il l'a bien mentionné aussi. Ça bouge pas mal plus vite quand il est question d'aluminium puis de l'acier. C'est drôle.
Ben oui, ben moins de lobby. Tu sais, l'aluminium, on n'a qu'à penser à Alcan. Dès qu'il se passe quelque chose, ben les dirigeants d'Alcan sortent. François Legault se retrouve au Saguenay. Puis, OK, on investit là-dedans pour vous aider à passer au travail.
Oui, exactement.
Capital politique qu'on va chercher là à ce moment-là. Tandis que débarquer à Saint-Michel-des-Saints dans une petite scierie, ça fera pas la grosse manchette. Puis on va aller chercher moins de capital politique. Donc, on peut laisser ça de côté. Pourtant, c'est des villages qui vont être appelés peut-être à fermer si jamais on fait rien.
C'est des industries menées par des hommes en cap d'acier. Puis les hommes en cap d'acier sont sur le terrain en train de travailler fort dans un village éloigné.
Exactement.
Avec peu de gens influents. Alors que l'autre industrie ont mis toute est leur remplie d'hommes là-dedans. À cravate.
Ouais.
Remplie d'hommes à cravate avec des belles montres à grande valeur qui, eux, ont les cercles d'influence nécessaires
exactement.
Pour faire bouger.
Qui, eux, gagnent des millions de dollars et ont des belles primes, ont des beaux bonus avec ça. Donc, t'as entièrement raison. Merci, Alexandre, qui écrit très éclairant votre entrevue avec M. Champeau. Ça nous fait plaisir, Alexandre. En effet, tu sais, faut toujours retourner sur le plancher. J'appelle ça le plancher des vaches. Là. Faut toujours y retourner pour voir vraiment les impacts de nos politiques.
Tu sais, des fermetures de scieries comme ça va nous faire mal à nous aussi. Parce qu'on a besoin de logements, on n'arrête pas de le dire. Hein? On a besoin de logements. Bien, s'il y a moins d'industries de transformation du bois d'œuvre, qu'est-ce que tu penses ça fait?
Il y a moins de logements qui se construisent.
Non, pas juste ça. Augmentation des prix.
Ben oui, c'est
parce
clair.
Parce que là, si moi je deviens la seule scierie qui reste encore ouverte, qu'est-ce que tu penses que je fais?
J'augmente
mes prix. J'ai plus de demandes, je peux monter mes prix.
Ça. Avec l'augmentation du coût du loyer.
Augmentation du coût du logement, de construction.
Etc.
C'est débile, là. On vient complètement déséquilibrer notre économie de la construction.
Oui, alors nos politiciens qui clament haut et fort travailler justement pour régler la situation de pénurie de logement prennent ces décisions-là qui font fermer des séries.
Oui. Fait que là, même si vous pensez que ça se passe en région, ces affaires-là, ça nous affecte aussi en ville.
Non, ça va affecter la ville de Québec. Tu fais bien de le mentionner, Jean-Saint-Ève. Honnêtement, j'adore justement ton point de vue. On fait une courte pause, mes amis. Par la suite, on revient avec justement l'essentiel de l'actualité. Mathias Turcotte qui va nous livrer le tout. Et Jean-Saint-Ève, je veux qu'on parle d'immigration et de crime.
Oui.
Sortie de Paul Saint-Pierre-Plamondon vendredi dernier par rapport à ça. J'ai des extraits d'une entrevue qu'il a donnée sur les ondes de LCN. Je veux qu'on en parle. Il parle d'Omerta, il parle du fait qu'on ne fait pas nos devoirs en termes d'immigration. Donc, je crois que c'est un sujet chaud à aborder.
Je te parlais des cartels chinois il y a quelques minutes.
Quand même. Hey, y a de la suite des idées dans cette émission-là. Vous êtes à Boulevard 102, c'est Boulevard Against le matin. Restez avec nous. Boulevard Against.